Bonsoir. Joseph Kabila affirme qu'il n'a jamais demandé à sa famille politique de réviser la constitution de la RDC. Il a dit ce dimanche au cours d'une rencontre à sa ferme de Kingakati devant les parlementaires de la majorité présidentielle. Le chef de l'État s'est dit prêt pour les élections, invitant la majorité présidentielle à préparer les dialogues politiques et les échéances électorales à venir. Comment analyser cette déclaration du président de la République? Nous en parlons avec François Ndekuyé, il est député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Bonsoir, honorable François Ndekuyé.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir les auditeurs de la radio mondiale.
David Jolino Makelele, député provincial de l'opposition, élu de la ville de Kinshasa, il est porte-parole de l'UNC. Bonsoir, honorable David Jolino Makelele.
Bonsoir Monsieur Guy Maté et bonsoir à tous les auditeurs.
Et Israël Moutala, analyste politique et économique. Bonsoir Monsieur Israël Moutala.
Bonsoir aux auditeurs, bonsoir Guy Maté.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le président de la République affirme n'avoir jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution. C'est ce qui ressort de sa rencontre hier avec 315 députés nationaux et 47 sénateurs de sa famille politique dans sa ferme privée de Kingakati. Joseph Kabila a invité la majorité à préparer les dialogues et à se préparer aussi à affronter les prochaines élections. Que les élections soient organisées maintenant ou demain, aucune force politique n'est capable de les gagner, à part la majorité a-t-il soutenu. On l'écoute dans ses propos sélectionnés par Alain Irung.
À la base de la situation ou de l'actualité politique, et ça l'argument principal qu'on utilise aujourd'hui, c'est le changement de la Constitution. Oui, c'est parce que M. Kabila, il va changer la Constitution, et je ne me souviens pas avoir organisé une réunion avec la majorité pour évoquer cette question de la révision constitutionnelle. Et j'avais évoqué ici, il y a 2 ans, le fait qu'il y avait un procès d'intention. Ils vont changer la constitution, ils vont faire ceci. On n'a jamais évoqué cette question. Même si c'est le droit de chaque citoyen de réfléchir, le droit de chaque député et sénateur de réfléchir et de faire des propositions. Pourquoi pas? Mais je pense que la vraie raison, elle est ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de ce monsieur, le président de ce pays, la République démocratique du Congo? Point d'interrogation, moi je ne sais pas. Il faut se préparer pour tout, pour les dialogues, les élections, la paix.
François Ndekuyé, je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du PPRD. Le chef de l'État a parlé et vous êtes parmi les parlementaires qui étaient présents. Et dans sa déclaration, il affirme n'avoir jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution. Comment vous analysez cette déclaration?
Je crois que le président de la République a répondu à l'humanité tout entière. Parce qu'il s'agit de l'humanité tout entière qui s'est mobilisée pour réclamer aux Congolais de respecter la Constitution, comme si effectivement il y avait une seule personne, je dis bien une seule personne dans la classe politique congolaise qui avait ouvertement dit que nous allions changer la Constitution. Et donc aujourd'hui, l'humanité doit savoir que Joseph Kabila n'a jamais organisé une réunion dans ce sens. Et Joseph Kabila a réaffirmé son respect de la Constitution, lui ainsi que toute sa famille politique. Les déclarations de soutien qui ont été lues hier par les députés nationaux comme par les sénateurs commence par cette réaffirmation du respect de la Constitution.
Honorable Nzekouye, c'est vrai que le chef d'État n'a jamais organisé une réunion au sujet, n'est-ce pas, de la révision de la Constitution, mais ceux qui l'accusent de vouloir s'éterniser au pouvoir à travers notamment cette révision de la Constitution se réfèrent au fait, et il cite notamment l'ouvrage du professeur Beauchab sur la révision de la Constitution, la déclaration faite par les PPRD selon laquelle ces partis étaient favorables à cette réforme de la Constitution. Il y a même un cadre du PPRD qui est allé jusqu'à proposer le changement de la Constitution. Et un autre fait, c'est le fait que toutes les personnes de la classe politique qui ont tenté de dénoncer ces velléités sont soit diabolisées, soit emprisonnées. Et face à tous ces faits, le chef de l'État a toujours gardé le mutisme. Ces faits ne sont-ils pas éloquents? Il y a même Fabrice Mpiana Senga Delikasi, qui dit « Personne n'a aussi dit que le président de la République a ordonné à sa famille politique de réviser la Constitution seulement. Les discours de ses acolytes sur la révision de la Constitution n'ont jamais été condamnés, ce qui pousse l'opinion à penser que c'est lui qui est derrière toutes ces manigances. »
Non, je ne crois pas. Beauchab, quand il a écrit ce livre, il a écrit en tant que professeur d'université. Il a fait une réflexion qui, dans certaines de ses affirmations, ne peuvent pas être contredites. Quand il vous dit que en Grande-Bretagne, en Allemagne, il y a une démocratie où les leaders peuvent être représentés autant de fois que leur majorité gagne, c'est une démocratie et c'est incontestable. Et quand il dit que il est inéquitable que à certaines charges des fonctions qui sont liées à l'élection, certains ont le droit d'être et de se présenter autant de fois qu'ils le veulent, toute leur vie si possible, et que à certaines autres charges cela ne soit pas permis, c'est au point de vue de la souveraineté du peuple une restriction et c'est inéquitable. Qui peut les contredire?
Oui, mais on connaît, on se rappelle les tollés que cela a soulevé à l'époque.
C'est ce que j'ai dit.
Et quelques mois après, c'est les PPRD, les partis présidentiels, qui a fait une déclaration selon laquelle ces partis étaient favorables à la révision de la Constitution.
C'est ce que j'ai dit. Il faut savoir une chose, nuancer les institutions et les faits privés. Les PPRD, c'est un fait privé. Et qu'au PPRD, les gens peuvent librement dire « Nous voulons que Kabila reste ». Mais si le PPRD n'arrive pas à franchir les Rubicons, ça veut dire poser un acte à travers les élus qui sont dans l'institution pour pouvoir présenter un texte dans le sens de leurs idées, ce ne sont que des opinions qui sont des faits privés. Vous dites un cadre du PPRD en faveur du changement. Vous dites même qu'il y aurait des personnes diabolisées et même emprisonnées. S'il vous plaît, Guimaté, dites-moi une seule personne qui serait en prison simplement par le fait d'avoir dénoncé un éventuel changement de la Constitution et qui n'a pas d'autre grief. Cela, il faut demander à la justice. Quand nous sommes dans les médias...
Mais c'est Vanon Kiboko.
Il n'a pas d'autre grief, selon les juges.
Mais parmi les griefs qui sont reprochés, c'est le fait d'avoir dénoncé...
Je ne crois pas que les juges sont juges.
De vouloir toucher à la
Constitution. Je crois qu'ils sont juges, j'ai en train de vous écouter. Je ne crois pas que son juge pourrait passer devant vous et affirmer que Vanon Kiboko est en prison pour avoir dénoncé la Constitution. Par contre, il a fait l'appel à la haine et il a dit que les gens qui tenteront vont voir les sangs des personnes couler. Voilà les raisons pour lesquelles cet homme est en prison.
Honorable Nzekouye, oui. Lors de cette adresse devant les parlementaires à Kinshasa hier, le chef de l'État s'est dit prêt pour les élections, mais on ne comprend pas. Est-ce que c'est lui en tant que candidat qui est prêt aux prochaines élections, donc à la prochaine présidentielle, où il est dit en tant qu'autorité morale de la famille politique du chef de l'État qui va accompagner les candidats qui sera désigné par cette famille à la prochaine présidentielle.
Votre question répond déjà à sa question elle-même. Le chef de l'État a tenu cette réunion en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle. Il ne l'a pas tenu en tant que président de la République. Sinon, il aurait pu nous recevoir au Palais de la Nation. Il nous a rencontrés en privé, dans sa ferme, en famille, pour qu'on parle en tant que membre de la majorité.
Et donc il ne le dit pas en tant que candidat.
Non, pas du tout. Il n'a pas du tout dit qu'il serait candidat. Sinon, ce serait dire une chose et son contraire quand il dit « Je n'ai jamais demandé conscience de la Constitution ». Comment serait-il candidat dès lors que la Constitution dont il est garant n'est pas changée? Ça n'a pas de sens. Donc aujourd'hui, Kabila dit « Il nous mènera vers d'autres victoires ». Nous devons donc considérer aujourd'hui que Kabila ne va pas être effacé de la scène politique par le simple fait de ne pas être candidat à sa propre succession. Nous pouvons décider, et je crois que c'est cela notre souhait à la majorité, que Kabila reste notre autorité morale, même s'il peut être en retrait pendant un certain temps de l'exercice du pouvoir, ou que, selon la Constitution qui lui reconnaît, qu'il brigue d'autres mandats. Il peut être sénateur, il peut être député national, il peut, pourquoi pas même, être gouverneur des provinces, même si cela est très peu envisageable. Donc il faut savoir que Kabila reste éligible à un certain nombre de scrutins. Mais aujourd'hui, le discours de Kabila est de conduire son bébé, la majorité présidentielle, vers d'autres victoires, et notamment aux prochaines élections à tous les niveaux.
Et donc, si je vous ai bien compris, Joseph Kabila ne sera pas candidat aux élections à la présidentielle de 2016.
C'est ce qu'il a toujours dit. Il respectera la Constitution, toute la Constitution de la première passe à la dernière. Je ne sais pas dans quelle langue vous voulez qu'on vous l'explique. Peut-être que je vous le dise en Kinande, ou que je vous le dise en Swahili, ou en Chiluba, pour que vous le compreniez, pour que tous les peuples le comprennent. Je vous dis, Kabila a dit qu'il n'a jamais assisté dans une réunion où on modifiait la Constitution. Et si la Constitution n'est pas modifiée, il n'est pas éligible, en tout cas à la magistrature suprême. Donc, quand il vous dit « Préparez-vous aux élections », c'est que lui, il va nous accompagner aux élections sans en être candidat. Il n'y a pas d'autres interprétations de son discours que celui-là. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train de faire le marketing politique auprès de la population pour dire que leur seul discours, c'est de ne pas vouloir la majorité parce qu'elle va modifier la Constitution, ils vont manquer de discours. Aujourd'hui, nous devons revenir sur le terrain et analyser l'action gouvernementale qui va être le bilan que nous allons présenter à la population, nous majorité, pour lui demander de nous renouveler sa confiance pour 2016. Mais dire que vous allez nous combattre sur base des arguments des modifications constitutionnelles, je crois qu'aujourd'hui, l'opposition, les amis des G7 et toutes les autres personnes à travers le pays comme à travers le monde vont manquer de discours.
Honorable Nzekouye, brièvement, avez-vous déjà un dauphin au sein de la majorité présidentielle, quelqu'un qui pourra, représenter la majorité présidentielle à la présidentielle de 2016?
Nous avons, je crois, plus d'un million de dauphins. Chaque cadre de la majorité présidentielle est présidentiable. Merci. Et donc, nous nous réunirons au moment opportun pour dire en qui nous avons mis notre confiance, derrière qui nous irons, pour pouvoir continuer à avoir le pouvoir. Parce que Kabila vient de vous dire qu'il n'y a pas une autre force qui est capable de gagner les élections. Ce sera la majorité présidentielle.
Merci.
Et ce sera les candidats qui nous désignerons au sein de la majorité présidentielle.
Jolino Makelele, député provincial de l'opposition, élu de la ville de Kinshasa. Vous êtes aussi porte-parole de l'UNC. Le chef de l'État dit n'avoir jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution. N'est-ce pas là une réponse qu'il vous donne à vous de l'opposition, qu'il avait toujours accusé de vouloir s'éterniser au pouvoir en révisant la Constitution?
Merci pour votre question. Je dois d'abord dire que si les sujets n'étaient pas sérieux, ça allait provoquer un petit rire de ma part. Mais je me retiens, je ne le ferai pas. Mais qui donc, on me dit ici, n'a jamais demandé à sa famille politique de réviser la Constitution? Est-ce que quelqu'un se rappelle encore ici d'un projet de loi portant révision de la Constitution qui devait amener l'élection des députés provinciaux du suffrage universel direct au suffrage indirect? J'espère qu'il y a encore des têtes qui s'en souviennent. Ce projet-là, d'après notre Constitution, pour être, amené au niveau du Parlement, il doit être examiné en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres l'avait examiné. Qui préside dans ce pays le Conseil des ministres? On ne va pas nous dire que le président de la République s'est retrouvé à un moment donné sans savoir ce qui se passe au gouvernement, puisque le gouvernement, les réunions du Conseil des ministres sont préparées à son intervention également. Donc c'est faux, archi faux, je le dis, quiconque, quelqu'un de bonne foi, peut soutenir ce que je soutiens, Et il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. D'abord, c'est historique. Ce projet de loi a existé. Il a été amené même au niveau du Parlement, même s'il n'a pas été examiné. C'était au moment où on parlait de la loi électorale sur base de la proposition de la CENI de faire ce genre d'élection au suffrage indirect. Ce projet de loi a existé. C'est dommage que je ne sois pas venu avec. Mais j'ai le compte rendu lu par le ministre de l'Information à cette époque, où on disait, pour des raisons qui tiennent aux finances, etc., et on a justifié ça à la commune. Bref, ce projet a existé. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on n'a jamais, comment dirais-je, demandé à la majorité de réviser la Constitution. C'est archi faux. Deuxièmement, laissez-moi dire ici que, par rapport aux propos en question, quand j'entends le président, on me dit que le président de la République s'est adressé à l'humanité tout entière, mon Dieu, à une classe de Congolais, et on dit que c'est l'humanité tout entière. Non. C'est à un groupe de Congolais qui s'est adressé.
Et notamment député et sénateur.
L'honorable a eu la lucidité de nous rappeler que c'était entre amis, entre membres de leur majorité. Et donc, c'est pas là. Le Congo, s'il a besoin de clarification, monsieur, je crois que je ne vais pas demander que le président de la République imite tous ses prédécesseurs. Mais Mobutu, en son temps, aurait dit Nye Nye Nayoki Nungu Nungu, et ça, question, et il aurait parlé. Et même Mouzé aurait dit j'en parle par ici, par là, qu'il y a des histoires, je vais vous annoncer. Qu'il vienne nous dire de manière officielle. Mais surtout,
mais au-delà du cadre au-delà. Qui a été utilisé, n'est-ce pas, au-delà. Mais les messages à lui-même ne vous satisfait pas, parce que l'honorable Zekouy vient de le dire, les chefs de l'État, à travers ces messages, il veut dire qu'il ne sera pas candidat aux élections présidentielles de 2016.
Encore qu'il faut arriver jusqu'à titiller parfois la fonction présidentielle pour écouter une réponse. Et récemment, c'est Vital Kamerhe qui l'a dit, qui l'a répété mille fois, qu'il faut que le président se prononce.
Mais il a fait.
Mais non, messieurs, quand on se prononce de cette manière-là, devant cette enceinte-là, et qu'on dit d'abord une chose qui n'est pas vraie, je viens de le dire ici, et avec tout le respect que je dois à sa fonction, que cette proposition de réviser la Constitution a existé, et deuxièmement, quand on le dit, monsieur, ben il faut quand même être, je ne sais pas, quand les autres ministres, un ministre de la République, il dit que cette Constitution peut être révisée, non seulement peut être révisée, on peut même la changer, et puis il doit être même éternel, sans tant au motombele, de tendi on a noté. Mais c'est une disposition qui est contraire à notre loi, et qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et du respect de la Constitution. C'est le président, et je rappelle toujours au terme de l'article 73 et suivant de la Constitution, le président de la République ne doit voir que l'intérêt général, pas l'intérêt partisan des gens de la majorité. Et je suis donc navré de dire que tout ce qui a été dit et les exemples qu'on nous donne sur la révision de la Constitution en Allemagne, etc., s'il vous plaît. Mais tout ça a été convenu par les Allemands, convenu par les Anglais. Nous avons convenu de quelque chose à Sun City, à travers la Constitution.
Le chef de l'État affirme ceci, que les élections soient organisées maintenant ou demain, aucune force politique n'est capable de les gagner à part sa majorité présidentielle.
Oui, je conduirai la majorité présidentielle aux victoires. Je crois que c'est ce qu'on a entendu également. Écoutez, c'est une prétention. Je respecte la fonction. J'aurais voulu entendre ça d'un membre éminent du PPRD que du président de la République. Président de la République. Car rappelez-vous que quand il s'est présenté devant les Congolais aux élections, il s'était dépouillé de sa qualité de membre du PPRD. Il a été donc élu par un bon nombre de Congolais. Ça n'empêche pas qu'il ait des affinités avec sa majorité. Mais quand il... Écoutez, est-ce que vous avez vu François Mitterrand en France, faire la campagne du Parti Socialiste alors qu'il terminait son mandat? Vous avez vu Chirac faire la campagne du RPR alors qu'il terminait son deuxième mandat? S'il vous plaît, il faut quand même un peu d'élégance. Nous sommes à la veille des élections. C'est vrai qu'avec les turbulences que connaît la majorité, il faut bien les encourager parce qu'ils n'ont plus le moral. Ils n'ont plus le moral de voir que Kamere carbure par-ci et que les G7 est en train de faire du malheur à leur projet de révision de la Constitution, que Katumbi se présente là où on ne l'attendait pas. Tout ça, ça fait un peu des ordres.
Honorable, vous semblez fastidier ces propos du chef de l'État, mais vous ne pensez pas que ce soit à la fois un défi et une interpellation à l'endroit de vous, de l'opposition, quand il dit qu'il ne voit pas une force qui peut gagner les élections à part sa famille politique?
Non, je dis que c'est...
Défi et interpellation.
C'est condescendant. C'est à croire que les autres Congolais n'ont pas la capacité. Et d'abord que le peuple n'est pas... Mais le peuple, il faut l'écouter. Le peuple, il s'exprime dans les urnes, il s'exprimera. Mais déjà dans la rue, il s'exprime. Aller faire un sondage pour demander qui veut que le président de la République reste encore, que cette majorité. Je vous mets au défi. Vous verrez qu'aux prochaines élections, il y aura peu de gens qui vont se réclamer des Kabila. Très peu de la majorité.
Et vous avez fait ces sondages?
Écoutez,
c'est vous basez sur quoi pour faire ce genre d'affirmation?
Je vous ai demandé de faire un sondage. Mais pour le reste, je peux vous dire qu'on sent ce nid-là ne comptera plus autant d'oiseaux aujourd'hui que hier.
Merci Israël Moutala, analyste politique et économique. Comment vous analysez cette déclaration du président de la République à Kakati? Il ne se souvient pas avoir évoqué cette question au sujet de la révision de la Constitution. Et il rappelle même que c'est un procès d'intention.
Moi, je trouve que la prise de parole du chef de l'État est tardive, mais positive. Mais elle est tardive, positive et incomplète. Pourquoi je dis positive? Parce que là, à demi-mot, à mot couvert, il vient de déclarer presque qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2016. On a fait un pas dans la bonne direction, vers la consolidation de la démocratie et de la sauvegarde de droits humains. Mais cela procède, à mon sens, de deux facteurs, les pressions internes et les pressions internationales. Donc on n'a pas senti que dans la démarche du chef de l'État, cela relevait d'une conviction intime, d'une conviction profonde. On sent qu'il a porté un lourd fardeau pour lâcher ces quelques mots par rapport, justement, à son engagement de respecter la Constitution. Je dis incomplète, pourquoi ? Parce que il est le garant de la nation. Ce mot a un sens. Ça veut dire qu'il faut que la paix... Tu as un pays qui a été divisé pendant autant d'années. 2 ans, lui parle de 2 ans. Mais y a le premier choc vient de janvier 2011, où de manière unilatérale, une fraction de la classe politique a modifié la Constitution et a changé carrément le régime de 2 à 1 tour. C'est là le problème.
À la veille des élections de 2011.
Donc il y avait déjà une suspicion, parce qu'on ne peut pas faire une réforme d'une aussi grande ampleur en 2 mois, sans un débat général sur la question. On l'a fait en catimini, et ça, il y avait certaines règles. On est parti déjà, il y avait déjà un passif par rapport à la Constitution qui avait été violentée en janvier 2011. Il faut avoir ce rappel historique à l'esprit.
Et vous dites que cette déclaration du chef d'État, elle est incomplète.
Elle est incomplète pourquoi ? Parce qu'il est le garant. Il ne pouvait pas économiser sa salive par rapport à tout ce qu'il y a eu comme débat, comme mort, comme incompréhension, comme suspicion. La fonction présidentielle, c'est une fonction qui est claire. C'est une fonction clairvoyante. Ça veut dire que c'est un repère. Ça veut dire, et ces repères, on les pose en prenant de manière solennelle la parole. C'est ça une fonction, quand on veut l'assumer pleinement. On s'est dit, moi le chef de l'État, je sais que vous êtes divisé, mais je suis le Congolais de tout le monde, des gens de l'opposition comme de la majorité, de la société civile. Et donc, parce que mon pays est si divisé, moi je veux la paix, pour que tous nous convergeons vers le développement, je ne veux pas violer la Constitution. Qu'est-ce lui coûterait-il de prononcer une allocution solennelle en disant que je respecterai la Constitution, je ne me présenterai pas en 2016. Et donc, son mutisme, son silence, ses non-dits lui ont coûté politiquement cher, ont coûté à la nation aussi très cher. Parce que toutes les dissidences, c'est parce qu'il y avait des sous-entendus, c'est parce qu'il y avait des non-dits, c'est parce qu'il y avait un défaut de clarté dans son discours politique. Il n'y avait pas d'avenir politique, il n'y avait pas de projet politique viable. Et donc, c'est tout ça. Il a payé un lourd tribut en voyant son camp pratiquement se déliter.
Oui, le chef de l'État s'est dit prêt pour les élections. En même temps, il invite la majorité présidentielle à préparer les dialogues politiques. Comment vous analysez ces messages?
Oui, mais quelles élections? C'est ça le problème de la clarté dans son discours. Quelles élections? Il y avait un calendrier avec 11 scrutins. Je crois 5 directs et 6 indirects. Mais quel scrutin ? Parce que nous voulons plus de navigation à vue. Il faut une planification. Je me prépare en fonction de quel scrutin, bon sang. C'est tout ça qui crée la confusion dans une nation. On a des problèmes de reconstruction, on a des problèmes de développement. Va-t-on ajouter des problèmes de gouvernance politique? Alors que c'est simple, il doit y avoir un choix politique. Quelles sont les élections les plus urgentes? Quelles sont les élections constitutionnelles? Vous lèvez des options, tu es le chef de l'État, tu lèves des options. Tu dis qu'à l'état actuel de nos finances, à l'état actuel du temps qui nous est imparti, voilà les élections pour la paix. C'est pas compliqué tout ça. Donc je suis d'accord qu'il faut se préparer à les élections, mais lesquelles? Mais lesquelles?
Et pensez-vous qu'il a répondu aux attentes de tous ceux qui souhaitaient qu'il puisse s'exprimer par rapport aux questions de l'heure?
Non, il a répondu partiellement. Je dis que c'était, nous sommes, il a fait un pas dans la bonne direction. Mais dans ça, c'est ce que dit.
Et qu'est-ce qu'il n'a pas dit qui...
Le fait qu'il ne l'ait pas dit de manière solennelle, ça veut dire qu'il a parlé à son camp. Son camp qui est perdu.
De ces cadres qui posent problème.
Non, ça veut dire que d'abord, il y a un contexte. Il y a eu des dissidences. Il y a une dissidence importante de Moïse Katumbi. Il y a une dissidence importante de José Ndundu, de Pierre Lumbi, de Kamitatu, bref, de Mwando, de Kyungu. C'est une dissidence importante. C'est vrai qu'à la majorité, on minimise ses départs, mais de manière froide, de manière sereine, c'est une perte lourde. Alors, par rapport à ça, vous avez une majorité perplexe qui n'a pas de repère, qui n'a pas de schéma, qui ne connaît pas, qui inquiète par rapport à son avenir, et c'est légitime. Et par rapport à ça, ils ont demandé à être, ils veulent être rassurés. Et donc, on les a convoqués à Kingakati, ils sont allés pour discuter, et puis il a dit, voilà, je ne vous trahirai pas, il a voulu rassurer son camp. Mais on en est arrivé là, pourquoi? C'est parce qu'il y avait un défaut de clarté, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand cette polémique a éclaté. Il aurait pris la parole à l'époque, il aurait déjà coupé l'herbe sur le pied de ses détracteurs. Mais il a payé très lourd son silence. Le silence est d'or, c'est vrai, mais dans certaines circonstances, le silence n'est pas d'or. Il est funeste, il est lugubre, parce que dans un pays comme celui-ci, ténébreux, il faut un cap, il faut des repères.
Il y a même Crispin Alibou de Dungu qui dit, à mon avis, c'est une déclaration à portée nationale. Dommage qu'elle a été soumise à une restriction politique en vase clos. Et c'est plutôt à la nation congolaise qu'il fallait faire une telle adresse par devoir de redevabilité pour les mandats obtenus du souverain primaire et non à sa famille politique.
Oui, et c'est facile de botter en touche de dire qu'il n'a jamais participé à une quelconque réunion sur la révision constitutionnelle. C'est dire que non, la réflexion est ouverte, mais parfois on a trouvé un consensus sur le fonctionnement des institutions, respectons quand même. On ne peut pas faire une constitution, une révision constitutionnelle ou un changement de constitution toutes les 5 ans à la veille de chaque élection. Donc le débat n'est pas sain qu'à chaque élection, on fasse de débat sur la modification de tel article. Et je ne suis pas d'accord avec l'honorable Zekouillet sur la question de l'Angleterre. Là, c'est un régime parlementaire. Vous avez un Premier ministre qui peut, c'est vrai, se représenter autant de fois. Mais il y a d'abord une démocratie interne au parti très forte. Et ensuite, il est tout le temps au Parlement. Sa responsabilité est engagée chaque fois et il peut tomber à tout moment. Et alors, ici, on voulait changer de régime en copiant le régime sud-africain ou le régime britannique. J'ai entendu même des réflexions par rapport à la chancelière allemande. Mais nous sommes dans deux régimes politiques différents. Et donc, à un moment, respectons les institutions et travaillons dans la durée.
Merci, honorable François Zikouye. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Rolo Katala, je vous appelle de la ville de Kisangani. Pour moi, le président n'a pas démenti mes propos dénonçant son intention d'oublier un troisième mandat. Car s'il n'avait pas cette intention de l'oublier, il le démentirait formellement. Et il n'aurait pas renvoyé son conseiller et les ministres fondeurs. Pourquoi a-t-il peur?
Oui, honorable François Dupuyé.
Je ne crois pas que les présidents
faire un démenti de façon formelle.
D'abord, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Les seuls documents qui lient les chefs de l'État par rapport à son mandat, à son terme du mandat, c'est la Constitution qui dit que la CENI convoque l'élection présidentielle 90 jours avant les termes. C'est la seule obligation. Il n'est nulle part dit que les chefs de l'État doivent se prononcer. On peut constater tout simplement parce qu'il n'y a pas de raison d'ailleurs de...
Dès lors qu'il y a au sein de la société un débat, le chef de l'État ne peut pas, en fait un débat qui semble malsain, le chef de l'État ne peut pas
il
se prononcer
peut,
pour mettre
peut,
fin à ce débat.
Eh bien, il peut, mais il n'est pas obligé. Et donc, j'estime que les gens qui parlent de solennité Le moment des solennités, c'est les discours sur l'état de la nation. Nous l'aurons en décembre. Attendons le chef de l'État sur Mala, il pourra se prononcer solennellement par rapport à toutes ces questions. Mais il est vrai que la turbulence au sein du PPRD, plutôt de la majorité présidentielle, exigeait au sein de la famille politique du chef de l'État qu'il rassure les siens sur les problèmes et que, par ricochet, sa réponse résonne aux oreilles de ceux qui lui prêtent les intentions.
Et donc, il n'est pas sorti de son silence de manière, n'est-ce pas, délibérée. Il a fait parce que le contexte politique du moment l'a poussé à le faire.
Vous le connaissez de nature. Kabila, ce n'est pas un homme qui aime parler. Ce n'est pas simplement par rapport à cette préoccupation. Kabila, c'est un homme qui considère que le silence est plus fort, sauf quand il se rend compte qu'il devient faible face à la parole. Probablement, il s'en est rendu compte par rapport à cette question, parce que ça en était un peu trop. Alors, laissez-moi répondre une minute à Gelino et à Israël par rapport à la préoccupation concernant la modification constitutionnelle. Gelino, il faut savoir mettre les choses dans les contextes. Quand Kabila dit qu'il n'a jamais assisté dans une réunion où on parle de modification constitutionnelle, c'est par rapport à son mandat. Mais la question de dire si les députés ou messieurs peuvent être élus au suffrage direct ou indirect, ce n'est pas verrouillé. C'est un débat. La Constitution prévoit que tous les articles de la Constitution peuvent être modifiables, sauf un certain nombre d'articles, y compris la disposition sur le fait que le président de la République soit élu à un scrutin ou deux scrutins. Ce n'était pas verrouillé. Donc vous ne pouvez pas jeter l'anathème sur des gens qui ont, même si c'était de manière profitable pour les présidents de la République dans la majorité, ce n'était pas condamnable du point de vue des textes.
Oui, il a aussi parlé des élections. Hein. Israël Moutala a demandé de oui. Quelles élections il s'agit.
Ce que j'ai dit, il ne revient pas au chef de l'État d'abord de définir les élections qui auront lieu, sinon il se substituerait à la CENI. Par contre, l'idée des dialogues voudrait effectivement nous permettre de regarder le calendrier de la CENI tel qu'il a été proposé, parce qu'il y a des décalages déjà qui existent.
Et comment vous envisagez cela?
Je réponds d'abord.
Il évoque les élections, il évoque aussi en même temps les dialogues.
C'est ce que je tentais de vous dire.
Oui.
Aujourd'hui, la classe politique congolaise devient de plus en plus unanime, et c'est là, conformément à la Constitution, que sont éligibles et électeurs toute personne au moment des scrutins qui a l'âge de 18 ans. C'était une violation constitutionnelle que les gens ont eue. Mais comment allons-nous nous en sortir dès lors que la CENI avait prévu qu'ils ne font l'enrôlement qu'à chaque cycle électoral? Donc aujourd'hui, s'il faut que les nouveaux majeurs puissent participer au scrutin, qu'ils soient candidats ou être électeurs, il faut que la classe politique se réunisse pour qu'on décide. Si on doit faire l'impasse sur certaines élections, dès lors que la CENI a déjà programmé ces élections, notamment les élections locales que l'on considère comme n'étant pas indispensables, il faut bien qu'on se réunisse. Donc le dialogue a son pesant d'or. Il faut qu'on dialogue.
Merci.
Pour des questions qui sont définies par les institutions, mais qui posent problème.
Merci. Honorable Mokelele, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Manono.
Merci Kabila, à partir de Manono, dans la nouvelle province de Tanganyika. La déclaration du chef de l'État vient interrompre les revendications intentionnels qui ont tenu domicile pendant ces derniers temps, mais aussi apaiser les esprits de ceux qui se sont proposés d'accéder au pouvoir par des voies possibles ou impossibles. Plus loin, Joseph Kabila appelle sa famille politique de préparer les élections prochaines. Voilà l'occasion pour le cas adverse de mettre en place le projet de société capable de contrebalancer celui de la majorité présidentielle, au lieu de crier que pour les troubles.
Oui, honorable Makelele.
Bon, disons d'abord que ce qu'il dit là, ce proche de la majorité, il le dit en pensant probablement à ce que l'honorable Azekouya a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, j'allais presque dire, la récréation est finie. C'est-à-dire, le président a dit. Nous, nous disons non. Je pose une question à l'honorable Azekouya. Je ne la pose pas directement parce que nous sommes dans un débat. Je vous propose de lui poser. Quand il dit le président de la République respectera la Constitution, il ne se présentera pas à un troisième mandat. Allez, c'est déjà un début de réponse. Soit. Est-ce que l'honorable Nzekouye peut dire ici que le 20 décembre 2016, le président Kabila ne sera plus président de la République? Je veux qu'on le dise. Il faut qu'on lit ces deux options-là. Vous verrez qu'on commencera par des explications. La question est simple, la réponse est oui, il le restera, ou non, il ne le sera pas. Mais vous verrez que vous n'aurez pas une réponse commençant par non ou par oui. On commencera par vous donner les explications qui vont embrouiller les auditeurs. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous avez tous ces ministres éminents qui disent le glissement est d'ailleurs consacré par la Constitution, et Santa Tomotombele, ils ne sont pas sanctionnés, monsieur. On leur dit, alors, écoutez, quelqu'un en France avait dit, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Quand vous allez à ce point-là, à l'encontre de la position du président de la République, est-ce que vous avez encore votre place dans le gouvernement? Dans le gouvernement de la République? Je dis non. Si vous y restez, c'est que, quelque part, on vous soutient. Donc, pour ce point-là,
est-ce que c'est une déclaration en tant que ministre ou en tant que président d'un parti politique?
Là, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il y a des porte-paroles du gouvernement, porte-paroles de la majorité, porte-paroles présidentielles, on ne sait plus. Mais ce qui est certain, c'est que quand c'est dit de manière officielle. Et surtout, ce que moi je ne veux pas dans ces genres d'histoires, il faut quand même qu'on sache que ce pays nous appartient à nous tous. Et que donc, quand on nous dit que cette majorité va nous amener vers des élections apaisées, nous nous disons non. C'est cette même majorité, donc le gouvernement de la République, qui ne veut pas, qui n'a pas voulu mettre les moyens à la disposition de la CENI. Nous l'avons établi au cours des budgets, des exercices budgétaires 2012, 2013, 2014. C'est du menu fretin. On n'a pas mis grand-chose, près de 15% seulement, à la disposition de la CENI. Tous, pourquoi? Parce qu'on savait qu'on allait glisser. Sinon, c'est irresponsable. Et donc, comme je ne veux pas taxer des gens d'irresponsables, je dis que c'est volontairement qu'ils ont fait. Et maintenant, ils commencent à nous dire, bon, on ne va pas amener la majorité au suicide collectif. Bon, ça relève un peu de la psychologie, certes, mais je dois dire que le suicide, comme mode d'emploi, je crois qu'on commence à y aller, parce que les gens commencent à sauter de plus en plus de ce navire-là, parce qu'ils ont peur, justement, du suicide.
Honorable, donc, brièvement, le chef de l'État se demande pourquoi vous avez peur de lui.
Mais c'est, je crois que, excusez-moi, j'ai de la considération pour la fonction. Mais qui lui a dit qu'on a peur de lui?
Israël Moutala, il y a une question qui vous est adressée, elle vient d'Ouvira, au sud Kivu.
Joël Ngalamulume, d'Ouvira, au sud Kivu. La position du chef de l'État n'est pas claire jusque-là. Ne pas modifier la Constitution est une chose. Mais ne pas permettre à la CENI d'organiser l'élection présidentielle de 2016 dans les délais légaux est une autre stratégie pour rester le plus longtemps possible au pouvoir.
Oui, Israël Moutala. Bon. Honorable Jolino l'avait même relevé ici.
Oui, j'ai déploré le fait que le chef de l'État ait usé de circonlocution, un langage direct, pour aborder une question aussi importante comme le respect ou non de la Constitution par rapport à ses engagements. Et la problématique de la CENI et tout ça. Mais moi, c'est une perte de temps. Moi, je pense que si la CENI fonctionnait de manière optimale, si les élections étaient considérées comme une respiration de notre démocratie, le gouvernement aurait donné déjà à la CENI les moyens de sa politique. Ils auraient déjà trouvé un accord sur un calendrier réaliste, un calendrier réalisable, finançable, dans la mesure de nos moyens et avec le concours de bailleurs de fonds. Et donc, sur toutes ces questions, on a tergiversé, et cela a donné lieu à toutes les suspicions, à tout ce qu'on appelle procès d'intention. Donc, les procès d'intention ne sont pas nés au hasard. Il y a eu un certain nombre d'effets qui ont conduit les gens à penser que quelque chose se tramait contre la Constitution.
Et après ces déclarations du chef de l'État, comment vous entrevoyez la suite des processus électoraux en RDC?
Bon, jusque-là, le chef de l'État lui-même a parlé de discipline, il a parlé de vérité, mais il a un devoir de vérité envers la nation congolaise. Il a parlé de loyauté, qui est cette capacité ou la fidélité à tenir parole, ou l'honneur qu'on a à tenir des engagements. Il a un devoir de loyauté envers la nation. Mais j'ajouterai qu'il a un devoir de clarté. On a besoin de visibilité à moyen et long terme. C'est ce qui manque à ce pays. Que l'on sache qu'à date précise, à date fixe, il y aura telle élection. Qu'on ne tergiverse pas et que critiquer un président par le membre de son propre camp, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Que personne n'est infaillible. Donc, dépassionnons. Je ne veux pas dire qu'on désacralise la fonction présidentielle, mais ne la prenons pas aussi trop au sérieux. C'est un humain. Et donc, allons, et il faut que cet esprit là-bas règne. Et c'est cet esprit qui doit diffuser dans son propre camp, où il y a des gens qui veulent le pousser à la faute. Et donc, moi je pense que parmi les personnes qui ont contribué justement à ternir l'image du chef de l'État, ce sont les cadres de son camp qui ont dit Kabila désire, Kabila Toton Dioté, le message sonnait faux, sonnait mal, et ça nuit à toute l'image du chef de l'État. Et donc, par rapport à tout ça, il y avait un devoir de clarté. Et je pense qu'il est maintenant, il a fait un premier pas avec ce devoir de clarté et il est sur la bonne voie.
Honorable Nzekouye, après ces déclarations, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral? Peut-on dire que l'horizon se clarifie?
Mais je crois que toute la classe politique congolaise, et je l'ai souvent dit chaque fois que je vais dans vos émissions, préparez-vous aux élections. Les élections vont bel et bien avoir lieu. Si nous estimons qu'il y a, oui, si nous estimons qu'il y a des élections que nous devons mettre entre parenthèses, dialoguons. Il ne faut pas fuir les dialogues. Parce que sans dialogue, on est lié. On laissera alors la CENI organiser les élections dans les contextes et dans et suivant son calendrier. Or, ce calendrier pose problème. Et on laissera
vous
de côté un certain nombre d'électeurs.
Les dialogues, vous pensez que si les dialogues sont organisés aujourd'hui, on aura ces élections dans les délais constitutionnels?
Plus tôt on aura les dialogues, mieux on fera. Parce que, je dis bien, on ne saura pas. Personne, je mets à défi quiconque de me trouver la solution pour la question de l'enrôlement des nouveaux majeurs, sans pour autant dialoguer.
Et qui bloque, qui ne veut pas dialoguer? C'est votre conclusion parce que nous sommes à la
l'opposition télé. Essentiellement ne veut pas dialoguer parce que la majorité a tendu la perche, que ce soit du côté de l'UDPS, l'INC et tous les autres. Ils disent niet parce que pour eux, dialoguer signifie vouloir violer la Constitution, cela signifie vouloir glisser les termes qu'ils inventent pour distraire l'opinion, pour que la population congolaise ne voit pas le travail de la reconstruction de ces pays qu'Abila est en train de faire aujourd'hui, au jour le jour, et qu'ils n'aient dans leurs oreilles que des suspicions face à une violation contre la Constitution. Et là, Kabila vient de répondre, ils ne manqueront pas des arguments de main pour vous dire, voilà, nous avons peur encore de ceci,
si, au lieu
de
regarder si l'opposition maintient sa position. Elle continue à dire qu'elle est contre le dialogue. Qu'est-ce que vous envisagez de faire?
Mais je crois qu'il faudrait laisser alors la CENI aller aux élections, nous amener aux élections dans ces contextes, avec les risques que demain nous venons dire encore que ces élections ne sont pas crédibles, Merci. Elles ne sont pas acceptables par tous et qu'il y ait de nouvelles crises.
Or,
la seule solution pour éviter les crises, c'est les dialogues.
Honorable Makelele, après les déclarations du chef de l'État, peut-on dire que l'horizon se clarifie par rapport au processus électoral?
Non, puisqu'il avait été dit, rappelez-vous, par quelqu'un, que je ne citerai pas ici, je vous mettrai vous-même le nom, le ciel ne tombera pas si le 19 décembre, le président de la République était toujours en poste. Et deuxièmement, le dialogue. Enfin, c'est le bon sens. Si vous voulez commencer à dialoguer avec vos adversaires, commencez d'abord à dialoguer chez vous. Si vous n'êtes pas capable de dialoguer chez vous, vous avez des velléités, j'allais presque dire, de domination. Vous avez des velléités de tricher. Mais comment voulez-vous que les autres qui ne sont pas de votre bord politique puissent vous croire? Le cas du G7 est une illustration de ce qu'il y a toujours des manœuvres derrière cela. Et donc, si on doit faire, est-ce que c'est difficile de donner l'argent à la CENI? Ah, c'est vrai. Matata ressemble un peu quelque part à la cigale. Ayant chanté les indices macroéconomiques pendant tout l'été, s'est trouvé fort dépourvu quand le calendrier électoral fut venu ou quand les manifestations de janvier furent venues. Alors tout cela,
en conclusion,
nous disons ceci. Il y a matière à clarification. Le président de la République, il n'agit que par rapport à l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est-à-dire prendre en compte aussi bien les gens qui votent pour vous, qui sont de votre obédience, et les autres. Et donc, voir, dire clairement, moi, le 20 décembre, comme quelqu'un l'avait dit, il y aura une passation. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Il y a cette phrase, la personne ne la prononce. Et je vous avais demandé de demander à l'honorable Nzekouye si le 20 décembre, le président Kabila sera toujours président de la République. Vous l'avez peut-être esquissé, mais il a sa réponse dans sa tête qu'il ne donnera pas faute de temps. Mais surtout, tout cela nous permet de dire, c'est une distraction.
Honorable Nzekouye, est-ce que le chef de l'État sera là, le chef de l'État Kabila sera là le 20 décembre 2016?
Voilà la constitution. La Constitution dit qu'une institution remplace une autre quand elle est élue.
Israël Moutala, votre conclusion?
Voilà. Ma conclusion, c'est que le chef de l'État, a un destin, a son destin en main, un destin formidable, d'entrer dans l'histoire de ce pays comme un grand président, un grand monsieur, qui peut justement favoriser l'alternance politique dans ce pays et montrer que après la présidence, il y a une vie honorable.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoï qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue entre Congolais, Alain Irung, Berry Franklin, Lucia Kassou, la supervision des Pélé Kipela Mondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi. Radio Capi.